Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
On ne dira jamais assez le rôle évolutif des crises et des révolutions. Un bouleversement incroyable est survenu au cours du Crétacé. Bien sûr, il y eut cette collision avec une comète qui renversa les espèces. Mais déjà, quelque temps auparavant, quelque chose s'était infiltré qui allait transformer le monde. Il suffisait d'écouter l'herbe pousser. Revenons. Les premiers dinosaures ont accompagné un monde végétal sensiblement différent de celui d'aujourd'hui. Dominé par des fougères arborescentes, des lycopodes, les cycasses, les niétales, les conifères et bien des plantes aujourd'hui disparues, la planète s'organisait autour des grands reptiles végétariens. Mais voilà. Vers la fin du Jurassique, ou au début du Crétacé, une incroyable transformation commence à avoir lieu. Une structure végétale extraordinaire va apparaître qui bouleverse le monde des géants. Le tyrannosaure reste encore impassible, et pourtant, une fleur est née. La diversification de ces plantes à fleurs va s'avérer très rapide, et les plantes à fleurs ou angiospermes vont complètement modifier la planète, supplantant les fougères, les cycasses et les gymnospermes. Au début, le changement ne semble pas déranger les choses, bien qu'il s'impose un peu partout. Les fleurs et les fruits entraînent à leur suite une innombrable quantité d'insectes. Certains dinosaures vont y goûter, comme en témoignent des études récentes. Mais ces plantes vont se défendre en inventant des tanins amers pour faire renoncer les herbivores. À la fin du Crétacé, il y a 90 millions d'années, une plante à fleurs se modifie encore. Petite, apparemment fragile, elle peut proliférer à toute vitesse et va envahir la planète. Voilà, l'herbe est là, qui couvre des surfaces entières. Au début, ne nécessitant que peu de lumière, l'herbe, c'est-à-dire les graminées, vont s'implanter dans les forêts tropicales. Mais la grande transformation va se poursuivre encore et encore. Les graminées vont contempler la grande disparition des dinosaures et des faunes marines. L'herbe va favoriser la diversification des mammifères brouteurs, reléguant peu à peu les reptiles à leur monde éteint. Le système digestif des herbivores mammifères va s'adapter à cette consommation. L'acte d'arrivée des mammifères est donc signé. Au milieu de l'Éocène, il y a 35 millions d'années, les graminées sauvages se sont répandues sur l'ensemble du monde. Alors pendant des millénaires, antilopes et bovidés vont vivre de cette herbe, et une extraordinaire biodiversité va pouvoir profiter de ces graines dans ces prairies immenses. Mais comment ces plantes remarquables ont pu coloniser une planète dont les continents s'étaient séparés en disloquant l'antique Gondwana? À cette première énigme s'ajoute une autre question. Comment les humains ont-ils su accorder de l'importance à ces graminées? Car ils vont en faire du pain, et cela va changer toute notre histoire. Quelque part en Eurasie, des humains vont cueillir ces graines nutritives et l'incorporer à leur alimentation. Avec les graminées, les peuples vont s'attarder dans des endroits les plus favorables et inventer le pastoralisme. Et puis un jour, la culture du blé commencera, et ces mêmes humains deviendront des compagnons, ceux qui partagent le pain. Le pain est un pluriel de farine et un pluriel de manière. Le pain est une partie de la culture paysanne, mais aussi de la culture ouvrière. Le pain a connu ses colères, et il y eut les révoltes du pain. C'est un peu de cette aventure des blés, depuis leur origine sauvage, que nous allons questionner aujourd'hui, sans oublier les guerres du pain et les batailles sociales. Car avec le blé commence déjà notre histoire. Et il ne sera pas dit que notre futur ne gagnera pas ces combats. Nous sommes, vous êtes sur Radio Libertaire, et du grain au pain, nous allons discuter du blé pendant 1h30.
Nous écoutions le duo des fleurs dans le lac Mai de Delibes. Nous sommes, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître et sans dieu. Et bien sûr sans publicité. Nous allons aujourd'hui discuter des blés et de l'apparition du pain. Alors Thierry, les plantes ont une histoire évolutive qui continue toujours. Et nous allons évoquer cette évolution avant de parler du blé et du pain. Les plantes se sont installées sur les terres émergées et nous voilà donc il y a environ 300 millions d'années avant ce jour.
Oui, c'est le Permien. C'est une période géologique qui finit le Paléozoïcionat et après l'installation des immenses forêts de fougères arborescentes du Carbonifère. Cette période du Permien est caractérisée par les premiers grands arbres et un climat de plus en plus sec. Tout allait basculer à la fin du Permien. Le système permien se termine vers 250 millions d'années avec une des plus grandes extinctions d'espèces connues. Une réaction en chaîne allait entraîner la disparition de 95 à 96% des espèces animales, marines et terrestres, mais aussi des végétaux. Dans cet océan, les trilobites et les scorpions de mer, qui avaient dominé la première partie du Paléozoïque, ont été les premiers touchés. Mais des groupes entiers de coraux ont aussi disparu en faisant petit à petit disparaître tous les habitants des récifs coralliens. Sur Terre, les synapsides, qui étaient les grands dominants du Permien, et d'autres groupes de reptiles primitifs, ont aussi disparu. Certains paléontologues estiment que ces extinctions se sont succédées sur une période plutôt courte, d'environ 80 000 ans, et pas à cause d'une seule et même catastrophe. D'autres estiment que ça a duré beaucoup plus longtemps. En fait, il paraît assez impossible que la disparition de 96% des espèces animales et végétales mondiales ne fût causée que par un seul et même cataclysme.
Effectivement, et après cette crise du Permien, commence le Trias, une autre époque géologique qui va durer plus de 50 millions d'années.
Le Trias fait débuter la seconde grande ère, le Mésozoïque. Le Trias connaît une longue diversification des espèces après la catastrophe du Permien. Quant aux végétaux, ce furent des conifères qui profitèrent du changement de climat, qui était trop aride pour la plupart des plantes qui étaient issues du Paléozoïque. Les cycasses, eux, vont s'implanter parmi la végétation du Mésozoïque inférieur. Et les ginkgo vont apparaître aussi avec plus de 7 variétés qui existaient à l'époque. D'autres plantes, appelées fougères pteridospermées, comme par exemple le Pachypteris, n'est en fait pas vraiment des fougères, mais des plantes primitives à grains qui vont habiter les marécages. Elles sont très prospères vers la fin du Paléozoïque, mais elles vont disparaître au Crétacé.
Mais à la fin du Trias, on découvre aussi les fameux premiers grands dinosaures qui vont s'épanouir durant le très célèbre Jurassique.
Oui, voilà, c'est ça, Siona. C'est au cours du Jurassique que les dinosaures vont se diversifier, alors qu'au contraire, les mammifères vont rester petits et discrets. Les lycopodes vont survivre encore avec des prêles et des fougères, mais ils sont bien moins abondants que pendant les périodes précédentes. Et c'est au Jurassique que se développent les cycasses, les conifères et les ginkgo, qui étaient déjà assez présents au Trias. C'est pour ça que le Jurassique est aussi appelé l'âge des cycasses, comme il est appelé l'âge des dinosaures, tellement ils sont nombreux. Parmi les conifères du Jurassique, on peut trouver des plantes apparentées aux pins, aux ifs, aux séquoias, ainsi qu'aux cyprès. Alors il y a aussi les bénétitales qui vont apparaître, comme par exemple Williamsonia, et ils pourraient être les ancêtres des plantes à fleurs, c'est-à-dire des angiospermes. Car cette plante possédait une tige robuste, couverte d'écailles en forme de losange, qui portait des organes déjà assez semblables à des fleurs.
En fait, la végétation de l'époque était encore très différente de ce que nous connaissons actuellement.
Ah oui, c'était complètement différent. Les premiers dinosaures ont vécu dans un univers végétal dominé par les fougères arborescentes, les cycasses, les conifères et des plantes qui aujourd'hui ont complètement disparu. L'écologie était donc très différente et à la fin du Crétacé, en revanche, la végétation va reprendre une apparence de plus en plus familière avec le développement des plantes à fleurs.
Le Crétacé, la troisième et dernière époque composant le Mésozoïque, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors le Crétacé, c'est la dernière époque des dinosaures qui suit le Jurassique, et elle est l'apogée des dinosaures, mais c'est aussi leur fin. Et le reste de la faune va évoluer aussi. Apparition des serpents, évolution des oiseaux, des mammifères, des tortues, mais aussi de la flore. C'est au Crétacé inférieur que les angiospermes vont apparaître. C'est donc ce qu'on appelle l'apparition des plantes à fleurs. Alors ça a été un saut considérable dans l'évolution de la flore. Car les premières structures semblables à des fleurs remontent à environ 130 millions d'années au milieu du Crétacé. Au départ, il ne s'agit encore que de petites plantes basses que des dinosaures vont écraser en marchant. Mais les angiospermes vont petit à petit parvenir à croître et à devenir rapidement les plantes dominantes. Cependant, il faut voir quand même qu'à l'époque, les fougères vont encore prospérer dans la plupart des forêts humides.
Ces plantes à fleurs marquent un tournant dès la fin du Crétacé, car elles survivent à la grande crise qui fera disparaître tous les dinosaures.
Et oui, et même probablement que les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, ont joué un rôle dans la disparition des dinosaures, en invitant une faune différente d'insectes, d'oiseaux et de mammifères. Car à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, plus de la moitié des ordres actuels d'angiospermes étaient apparus, et près de 70% des espèces actuelles. Toujours est-il qu'après la crise Crétacé-Tertiaire, la fameuse crise provoquée a priori par cette comète, les plantes à fleurs vont prospérer et en même temps que les mammifères. L'époque qui va suivre, le Paléocène, va connaître un climat chaud et humide. Les forêts tropicales vont dominer l'ensemble de la planète et les continents vont petit à petit se découper, se séparer. L'Amérique, l'Asie et l'Europe vont apparaître.
Mais ces plantes à fleurs ont mis des millions d'années à s'imposer. D'où viennent-elles ?
Oui, en fait, les prêles, les fougères sont encore très présentes. En dépit de l'incroyable diversité des angiospermes, des plantes à fleurs, les analyses phylogénétiques montrent sans ambiguïté que les angiospermes présentent une monophylie. C'est-à-dire qu'elles sont toutes issues d'une souche unique. Elles sont apparues qu'une seule fois au cours du Crétacé et ont pu se développer à la fin du Crétacé et bien sûr encore davantage au Paléocène. La famille Emborellacea est considérée comme la famille sœur de toutes les plantes à fleurs actuelles. La mutation de certains gènes, qui sont probablement liés au développement des feuilles, a inauguré l'invention des premières structures florales. En d'autres termes, les membres de cette famille furent très vraisemblablement les premières plantes à porter des fleurs. Alors ce sont des sortes d'arbustes à feuilles persistantes qui vivent dans les forêts pluvieuses, on en trouve actuellement encore en Nouvelle-Calédonie.
Et ensuite, que s'est-il passé ?
Alors ensuite, les temps se succèdent encore et on va avoir apparaître plein d'espèces qui vont commencer à pâturer dans des immenses étendues. Les angiospermes, alors ça signifie que les graines sont encloses, sont le seul groupe dans lequel les graines sont complètement enveloppées dans un étui qu'on appelle un carpel. Apparaissent maintenant les premières graminées sauvages. Chez les graminées, la fleur est réduite à ses organes sexuels. La fleur, c'est un sexe. La plupart des espèces de la famille des graminées, ou qu'on appelle actuellement les poacées, sont des plantes qui vont pratiquer ce qu'on appelle une fertilisation croisée. Ce sont donc des plantes allogames. Ça veut dire qu'elles sont pollinisées par le vent, et puis elles vont vite assez se répandre. Toute la région de l'Eurasie va être privilégiée petit à petit par des mammifères brouteurs. On va avoir des moutons sauvages, des antilopes, des bisons, qui vont vagabonder en même temps que les graminées prairiales, qui vont se développer et donc se diversifier encore. Sous ces climats, où des saisons maintenant froides et des saisons chaudes vont se succéder, les plantes qui vont posséder des graines vont avoir un avantage évolutif, permettant un démarrage beaucoup plus vigoureux de leur végétation.
Ces plantes vont profiter aux herbivores qui évoluent alors dans les grandes plaines sèches.
Oui, c'est ça. Il faut imaginer un paysage de grandes prairies. Les graminées vont se répandre partout, mais elles vont se défendre contre les herbivores. En effet, les plantes à fleurs vont développer des tanins comme moyen de défense chimique contre les microbes, mais aussi contre les herbivores. Alors les tanins, ce sont des polyphénols que les plantes construisent et dont les métabolites les rendent de moins en moins digestes. Mais ces plantes qui sont riches en tanins, comme le lotier, la chicorée, le plantain, présentent aussi des propriétés antiparasitaires. Elles sont très productives et très résistantes à la sécheresse. Du coup, les animaux brouteurs vont bénéficier de ces plantes et donc bénéficier paradoxalement de ces tanins parce qu'ils les broutent.
Mais les plantes à fleurs produisent des grains très nutritifs, quand même pour les herbivores.
Oui, les grains et les molécules d'amidon sont très denses dans les graines de graminées. Donc toutes ces poacées vont être assez intéressantes parce que toutes ces molécules d'amidon sont en général peu accessibles aux enzymes digestives. Mais du coup, leur valeur nutritive va donc être faible. Mais en fait, les graminées sauvages vont connaître un autre destin, parce que petit à petit, on va assister à la domestication de leurs grains.
Le groupe de métal Arch Enemy affirmait « The world is yours ». Alors les blés, nous sommes dans cette partie. Alors Thierry, nous avons cette émission sur l'arrivée des plantes à fleurs, puis les premières évolutions que connaissent les graminées. Et comme il faut séparer le grain de l'ivraie, ivraie qui provoquait une sorte d'ivresse, paraît-il, parmi toutes ces graminées, bien sûr, va apparaître le blé.
Eh oui, Siona. Le blé est une plante monocotylédone de la famille des poacées, c'est ce qu'on appelle habituellement les graminées. Ce qu'il faut comprendre pour suivre l'évolution de ces graminées, c'est que leur génome est caractérisé par une variation très importante du nombre de chromosomes selon les espèces. En fait, le nombre de chromosomes peut doubler, tripler, quadrupler, et à chaque fois ça confère aux plantes des qualités particulières. On parle donc d'une très très forte polyploïdie. La polyploïdie, c'est l'augmentation du nombre de chromosomes qui, chez les graminées, est estimée à 80%.
Carrément.
Cette énorme variation qui provient d'épisodes d'hybridation, ça va considérablement augmenter la taille du génome de ces plantes.
Alors, les chromosomes portent des gènes et le génome, c'est l'ensemble de ces gènes. Mais Thierry, en quoi le fait d'avoir les mêmes chromosomes en double ou en triple peut constituer un avantage ?
Eh bien, en fait, s'il y en a, les graminées partagent le même génome, elles seront donc plus ou moins interfertiles, et elles peuvent conduire évolutivement comme si elles étaient une seule espèce. En s'hybridant, la polyploïdie permet de conserver des patrimoines génétiques qui sont totalement différents, mais qui sont répétés. Par exemple, si deux plantes diploïdes s'hybrident pour donner une nouvelle forme polyploïde, eh bien, les deux génomes originaux seront présents. dans cette nouvelle forme. Par conséquent, en s'hybridant, elles vont pouvoir se multiplier. Plusieurs milliers d'années après l'événement original d'hybridation, l'identification des génomes composants permet même d'identifier les espèces qui sont originales, les espèces parentes. Dès lors, le blé est un terme générique qui va désigner plusieurs céréales qui appartiennent tous au genre Triticum, et bien sûr, ça va aussi désigner leurs grains.
Donc, il faudrait dire, finalement, les blés. Mais au bout du compte, comment le blé, c'est-à-dire les différents blés, sont-ils apparus ?
Alors, pour parler du genre Triticum, il comprend des espèces sauvages et domestiques qui sont généralement considérées comme du blé. L'ancêtre du blé, c'est très probablement une égilope. Alors, l'égilope, c'est une grande céréale à un rang de grain diploïde à 14 chromosomes. Elle est très rustique et elle s'est croisée probablement avec une sorte d'engrain, le Triticum hurtatu, ce qui est une autre céréale très rustique. En fait, le blé moderne, c'est le résultat d'un agencement génétique original qui est constitué du génome complet de trois espèces différentes. Alors, comment les chromosomes de ces espèces se sont déployés, on ne sait pas. Mais en tout cas, comme ils ne se mélangent pas lors de la méiose, lors de la reproduction, le blé est donc le résultat d'événements dits de polyploïdisation, qui sont intervenus à la suite de croisements entre chaque espèce. Chaque génome est donc conservé, ce qui explique l'augmentation des chromosomes, l'augmentation de la polyploïdie à 14 chromosomes. On est passé à des plantes à 21 chromosomes, et au moyen d'autres croisements, puis à une souche tétraploïde à 28 chromosomes, et actuellement, on est dans des blés hexaploïdes à 42 chromosomes, chacun gardant toujours l'ensemble du génome de l'espèce originale. Le premier événement est la fusion de deux espèces diploïdes portant chacune 7 paires de chromosomes, un blé sauvage et l'engrain, probablement l'engrain sauvage, on va l'appeler le génome A par exemple, et puis cet égilope d'espèce inconnue qu'on appelle par exemple le génome bébé. Ce qui fait qu'on a déjà une plante originale. Et cet événement d'hybridation a eu lieu il y a probablement 500 000 ans. Et il a conduit à l'apparition de ce fameux blé tétraploïde sauvage, Triticum turgidum, avec un génome AABB, 14 paires de chromosomes. On est passé de 7 à 14. Et c'est cette souche ancienne qui a été domestiquée pour fournir par la suite l'amidonier, puis ensuite le blé dur.
Les premiers blés sont des hybrides très proches de la plante sauvage et de l'engrain en particulier alors.
Oui, c'est une fusion de l'engrain sauvage, qui actuellement n'est plus tellement présent, et d'un égilope. Mais il y a un second événement d'hybridation qui va intervenir. Elle est volontaire cette hybridation-là. C'est une fusion qui a lieu au cours de la domestication des blés il y a environ 9000 ans. Et donc on va faire apparaître un blé tétraploïde, cultivé probablement comme celui issu de la première hybridation, qui va être réhybridé avec un autre diploïde connu, qui est Aegilops stachys. C'est donc un nouveau génome DD. Alors elle a donné des blétans, comme par exemple le grand épeautre ou encore le froment. Du coup, on a un génome AABBDD, vous voyez, à 21 paires de chromosomes. Oui. Il est donc déjà hexaploïdé, on est déjà dans des blés très anciens.
Alors voilà donc, les blés sont domestiqués et sélectionnés pour donner des céréales particulières. Et ils vont progressivement devenir, finalement, le blé moderne.
Voilà. Alors, en fait, pour reprendre tout ça, les variétés anciennes de blé rustique sont des blés à grains vêtus. C'est-à-dire qu'ils possèdent une petite enveloppe autour de leur grain. Et ces grains qui sont insérés dans des enveloppes, même après le battage, il faut encore les décortiquer pour pouvoir les utiliser. Ces blés-là, en gros, il en existe quatre espèces, enfin quatre blés originels, pour simplifier. On a donc l'engrain cultivé qu'on appelle aussi l'espetio ou encore le petit épeautre de Provence. C'est le Triticum monococcum. C'est une espèce à grain vêtu, très faible rendement, avec une très faible teneur en gluten, en général moins de 7%, et c'est probablement le blé le plus proche de tous les blés originels. C'est une espèce qui est originaire d'Asie mineure. C'est la seule céréale qui n'a pas subi de modification génétique depuis son origine. C'est donc désormais une culture relique. Alors l'engrain noir est apparu il y a environ 5 à 7 millions d'années. Il était déjà cultivé il y a plus de 7000 ans. Et sa culture est répandue en Europe. Mais elle a beaucoup régressé depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, on ne trouve plus cette culture que quasiment en Haute-Provence. Bon, il y en a un petit peu en Anjou. Et en Haute-Provence, il jouit d'une IGP d'origine, l'engrain cultivé. Le deuxième, c'est l'épeautre. Alors l'épeautre, pour le distinguer de l'espotio de Provence, on va l'appeler le grand épeautre, ou encore le blé des Gaulois. C'est une sous-espèce de blé tendre, mais c'est encore un grain vêtu. Il y a une autre espèce qui est l'amidonier ou moyen épeautre qui va émerger également il y a 400 000 ans. On voit que tout ça, ça se mélange. L'épeautre ou grand épeautre est très apprécié en agriculture biologique parce qu'il est très rustique,
Il est panifiable. Alors, il n'a pas un aussi bon rendement que le blé moderne. Il a été longtemps écarté d'agriculture conventionnelle. On retrouve du grand épeautre, alors là, c'est le Triticum spelta, sur des sites archéologiques de l'âge du bronze, y compris en Europe centrale, en Europe de l'Est, et bien sûr au Proche-Orient. Alors, on peut les confondre, car le grand épeautre et le petit épeautre, c'est-à-dire l'engrain, sont relativement semblables. Mais il faut savoir que le petit épeautre, il est diploïde, le grand épeautre, lui, il est hexaploïde. Alors ce sont des dénominations voisines qui sont en fait là pour définir des variétés, voire des espèces qui sont vraiment très différentes. Mais on n'en est encore qu'au deuxième blé ancestral.
Alors le troisième.
Le troisième, c'est l'amidonier sauvage. Alors l'amidonier sauvage, il est aussi appelé épeautre de Tartarie. Comme quoi, tu vois, c'est pas
ça. Ah oui.
C'est encore un blé vêtu à faible rendement, l'amidonier. Il est adapté à des sols plutôt pauvres et arides. C'est, après l'engrain, la plus ancienne céréale domestiquée. Ce grain produit une farine blanche, très riche en amidon, d'où le nom français de la céréale, l'amidonier sauvage. En fait, l'amidonier sauvage n'est pas le vrai amidonier sauvage. Il est en fait maintenant le résultat de l'hybridation avec des blés sauvages, mais c'est pas très grave. Et puis il y a la quatrième partie, l'amidonier blanc, qu'on appelle aussi amidonier noir, car c'est un blé compact.
Blanc, noir.
Voilà. Alors ce sont en fait deux plantes, deux variétés très proches de la même espèce, Triticum amideum, et leurs épis sont très serrés et très courts, parfois avec des barbes ou parfois sans barbe. Ils étaient cultivés en Europe du Nord, dans des situations climatiques beaucoup plus difficiles, et leur qualité est pas très différente du froment. Il convient plutôt à des terres pauvres et plutôt dans les régions froides.
Il s'agit à chaque fois de blé à grains vêtus, ce qui complique l'utilisation de ces grains et la fabrication de la farine moulue à la pierre par les moulins à l'époque.
Oui, parce que non seulement ce sont des blés rustiques à faible rendement, donc ils vont pas être très profitables, mais en plus le grain conserve, une fois qu'on l'a battu, l'enveloppe, ce qu'on appelle la glumelle. Et les glumelles vont rester. Donc ça impose qu'après la récolte, il y a une autre opération, le décorticage. Alors c'est cet inconvénient, bien sûr, de toutes ces enveloppes embraneuses qui ne peuvent être détachées que par du vannage, du battage, qui va faire que ces blés vont être petit à petit abandonnés. Il faut ajouter que ce sont des grains petits, qui sont pauvres en réserve et peu pourvus en gluten. Quand c'est peu pourvu en gluten, ça veut dire que la farine va donc avoir plus de mal à se panifier. Il faut ôter l'enveloppe, faible taux de gluten, qui va donc limiter aussi le levage. Et puis, faut pas oublier qu'à l'époque, on utilise encore des meules et des moulins à manège, qui sont tirés par des ânes. Ça met donc très longtemps. Les moulins à eau ne vont apparaître que 700 ou 500 ans avant Jésus-Christ.
Il faut donc une longue sélection du patrimoine génétique pour obtenir des blés moissonnables.
Moissonnables et panifiables. Alors les blés sauvages, on rappelle, sont donc diploïdes, comme la plupart des espèces sauvages. Donc ils ont un stock de chromosomes double. Ici c'est 2x7 chromosomes. Chez l'humain, on a aussi un stock double. La moitié est d'origine paternelle, l'autre moitié d'origine maternelle. Au cours de l'évolution spontanée, ce patrimoine chromosomique s'est donc multiplié par deux, pour produire des blés tétraploïdes, comme l'amidonier ou encore le blé dur, puis par 3 avec la domestication. Et là, on a donc des blés hexaploïdes à 42 chromosomes, dans le cas du froment ou du blé tendre. En même temps, une partie du génome des deux autres espèces de graminées sauvages, l'amidonier, etc., vont s'hybrider de façon accidentelle avec celui des blés domestiques. Et ce patrimoine génétique a été maintenu grâce à une auto-fécondation. Et cette addition a donné des aptitudes nouvelles, un meilleur rendement, et surtout, on a vu apparaître des grains nus. Alors c'est à travers ces nouvelles hybridations que le froment, le blé moderne, a acquis beaucoup plus de gluten, rendant sa farine panifiable. Alors les blés vont devenir des souches tétraploïdes à 28 chromosomes, puis hexaploïdes, donc à 42 chromosomes.
Donc Thierry, ces nouvelles variétés vont donner ce que nous nommons aujourd'hui des blés anciens.
Oui, parce que paradoxalement, ces blés modernes vont rester quand même très anciens. Ils apparaissent quand même il y a quelques milliers d'années déjà. Et donc, on va parler de blés anciens pour des blés qui sont finalement beaucoup plus modernes que l'engrain, l'épeautre, etc. Et qui sont en fait d'origine ancienne, comme par exemple le blé de Corazon. Alors, on ne connaît pas son origine précise au blé de Corazon. Il a été décrit seulement en 1921. C'est un grain ancien qui provient probablement de l'Iran. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de cette province historique qui s'étendait entre l'Iran et l'Afghanistan. On le nomme aussi blé de Pologne, mais c'est le même. Et ses qualités nutritionnelles sont remarquables. Alors lui, il a un taux de gluten supérieur au grain dont on a parlé avant, puisqu'il atteint 10% de gluten. Mais c'est très très peu par rapport au blé beaucoup plus moderne que maintenant. Et il a 17% de protéines. Le Camut, c'est le deuxième blé. Alors c'est un blé de Corazon, le Camut. C'est la même chose que le blé de Corazon. Il a été réintroduit en 1949 grâce à un aviateur américain qui avait envoyé une 60aine de grains d'Égypte à son père dans le Montana et qui les a multipliés. Alors évidemment, il y a toute une légende autour de ça. On nous raconte que ces grains proviendraient de la tombe d'un pharaon égyptien. Voilà pourquoi on l'appelle généralement le blé de Toutankhamon, le King Tutwit en anglais. Mais enfin, dans la réalité, c'est un cultivar du blé de Khorasan, c'est-à-dire une variété du blé de Khorasan, qui est cultivée toujours selon les règles de l'agriculture biologique, sous un contrôle, et c'est donc la société Camut International qui en possède le brevet. C'est un brevet déposé en 1990. Après, on a les blés poulards. Alors, les blés poulards, ce sont des amidoniers aux graines nues, ce sont des grains anciens encore, qui sont caractérisés par des grains très renflés, et puis généralement une bonne résistance aux chaleurs. Ces blés poulards sont assez rarement cultivés parce qu'ils sont quand même de moins bonne qualité que beaucoup d'autres blés, enfin de moins bon rendement, hein, la qualité est meilleure, mais de moins bon rendement que les blés modernes. Et puis le blé rousselin, qui est un blé rouge sans barbe, d'origine beaucoup plus récente, mais là encore on le connaît mal, sont probablement des blés qui sont apparus au Moyen-Âge. Donc quand je dis récent, vous voyez, c'est quand même ancien tout ça. Voilà pourquoi on appelle ces farines-là des blés anciens, même si ce sont des blés qui sont à peu près les mêmes que les blés modernes, mais ils sont pas débarrassés encore de toute une partie des choses. À chaque fois, les paysans vont s'attacher à développer des semences gratuites, toujours très loin des variétés industrielles et payantes d'aujourd'hui.
Eh oui, tout à fait, c'est bien triste. Ce sont donc des grains anciens, mais le blé moderne des boulangeries, lui, c'est autre chose encore.
Eh oui, en effet, le blé très moderne, le Triticum estivum, c'est un hybride hexaploïde qui va descendre de trois variétés de blé considérées comme des grains anciens. L'épeautre, l'engrain et l'amidonier. Il n'existe pas de blé hexaploïde sauvage, à 6 jeux de chromosomes, ça ferait 42 chromosomes. Tous les blés hexaploïdes ont donc évolué sous l'effet de la domestication, de la culture. Alors il existe 30 000 variétés de blé cultivées. Ce sont tous des Selpotoïda à 42 chromosomes qui fournissent la plupart des blés cultivés, très riches en amidon. Et puis il y a d'autres blés qui proviennent d'une première hybridation qui vont donner des blés tétraploïdes à 28 chromosomes seulement, qui sont des blés durs avec des épidenses comme l'amidonier dit sauvage. Mais au fur et à mesure de la formation des blés hexaploïdes par la sélection, eh bien, la sélection est encore de plus en plus forte et on connaît une forte réduction de la diversité génétique entre les formes sauvages et l'espèce dit blé tendre. Hein, alors les formes sauvages, c'est donc Triticum dicotycoides, par exemple, et le blé tendre, hexaploïde, c'est le Triticum estivum. Et ça, ça date vraiment de la fin du Moyen-Âge, mais ça s'est vraiment révélé, surtout au XIXe siècle. Alors tous ces blés hexaploïdes sont le résultat d'une hybridation entre des blés tétraploïdes domestiqués qui comportent 5 génomes d'espèces différentes, originales, et ces 5 génomes sont tous issus originellement des espèces diploïdes. Donc tout ça s'est combiné d'une manière différente, voilà pourquoi on peut dire qu'il y a effectivement beaucoup de sortes de blés, mais le froment actuel, qui est l'espèce la plus cultivée dans le monde, a aussi beaucoup plus de gluten, on peut atteindre jusqu'à 17% de gluten et beaucoup moins de protéines que ce qu'on appelle les anciens blés sauvages. Bon, j'espère qu'on a été clair parce que la diversité génétique.
C'est vrai que oui, j'allais dire, c'est complexe malgré tout, avec une diversité aussi importante.
Et cette évolution, elle a accompagné l'industrialisation de l'agriculture en modifiant significativement les caractéristiques et la diversité des blés. Et la sélection moderne qui a commencé à partir du 19e siècle, notamment par Henri de Villemorin, s'est concentrée sur trois critères: résister aux maladies et aux aléas climatiques, être riche en protéines, notamment riche en gluten, parce que ça facilite la panification. Et cette sélection, elle a eu comme contre-coup la quasi-disparition des blés qui étaient, eux, pauvres en gluten.
Thank you.
Ofraza interprétait Imni Malu, un peu de culture méditerranéenne pour parler de l'origine du pain. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, science en liberté, parce qu'il n'y a pas de science sans liberté. Notre troisième partie du pain, nous revoilà toujours pour parler des origines des blés et de la farine. Et voici maintenant arrivé à parler du pain. Alors Thierry, bien que toute l'humanité consomme des pains très diversifiés, l'origine et la formation du pain levé appartiennent à l'ère culturelle méditerranéenne.
Oui Siona, alors on va parler effectivement que du pain levé, parce que si on commençait à parler de toutes les sortes de pains azimes, etc., on n'en sortirait plus. Mais il faut ajouter que les premières cultures ont été à l'origine de bouleversements majeurs pour les sociétés humaines. La plupart des outils agricoles, la houe, l'arrière, la faucille, sont inventés autour de la culture des blés dès le début des néolithiques. La domestication a permis d'obtenir des froments panifiables qui sont différents des blés anciens. En fait, les grains de blé sont consommables après torréfaction sur des pierres chaudes, mais possèdent encore une valeur nutritive assez faible. Alors avec la poterie, les céréales cuites ou bouillies sont plus faciles à digérer, parce que gélifiées par la température et donc moins denses, l'amidon des grains va devenir plus attaquable par les enzymes salivaires, les amylases et les enzymes intestinales. On va donc pouvoir s'en nourrir. Ça libère des sucres qui sont absorbables par le tube digestif. Mais c'est surtout grâce à l'invention du levain que les céréales vont devenir beaucoup plus intéressantes. Alors le levain, c'est une fermentation symbiotique de levure et de lactobacilles qui vont se développer dans un mélange de farine et d'eau. Le pain au levain, il a aussi son goût spécifique par rapport au pain monté à la levure, car l'acidité particulière du pain au levain est en effet due à l'acide lactique et à l'acide acétique qui sont produits par ces bactéries lactiques.
Mais le gluten, il semble que il soit essentiel pour que la pâte soit élastique.
Alors le gluten, c'est quoi? C'est un mélange de protéines, ça a une très grande importance dans le processus de panification, parce que ce sont des grosses molécules qui vont former un réseau élastique qui va être extensible. Et ça va retenir les bulles de dioxyde de carbone qui sont issues de la dégradation des sucres avec le phénomène de la fermentation par les levures. C'est ce phénomène qui va provoquer la levée de la pâte et l'aération de la mie.
Ah oui, d'où son importance. Le gluten n'est pas présent dans le grain du blé directement, là.
Alors, on entend beaucoup ça sur Internet. Le gluten, il est présent et pas présent en même temps. En fait, le gluten se forme après hydratation, à partir de deux protéines de réserve qui sont présentes dans le grain. Alors, les protéines de réserve, ce sont des protéines qui forment normalement la réserve pour le grain. Mais en présence d'eau, ça va former un réseau de élastique qui va ressembler à de la glu, d'où le mot gluten. Et il est principalement constitué de deux types de protéines insolubles, les prolamines et les glutamines. Les prolamines possèdent une teneur très élevée en acides aminés, en proline et en glutamine notamment, et les glutamines associent des gliadines, qui sont plutôt des protéines monomériques qui, elles, sont solubles. Au contraire, les autres sont constitués de nombreuses sous-unités, les glutamines sont constituées de nombreuses unités insolubles. Certains gènes ne vont pas s'exprimer chez tous les blés, donc on va ajouter de l'amidon, du sucre et des lipides dans cet ensemble-là qu'on va appeler le gluten.
Après la Première Guerre mondiale, si je ne m'abuse, une controverse nouvelle est apparue. Des personnes développent une sensibilité au gluten liée principalement à une mauvaise absorption intestinale.
Alors oui, on a découvert ça après la Première Guerre mondiale, chez une partie de la population, un trouble spécifique de la digestion qu'on a appelé la maladie cœliaque. Ça touche environ 1% de la population, dit-on au grand maximum, mais certaines personnes disent que ça peut toucher plus. Car en fait, il existe aussi ce qu'on appelle une hypersensibilité au gluten. Et là, on a au moins 6% des personnes qui sont touchées. La sensibilité au gluten est caractérisée par des symptômes qui surviennent généralement après l'ingestion d'aliments qui contiennent du gluten. Mais c'est pas si clair que ça, en fait. Ça dépend du type de gluten. Et ils disparaissent après l'arrêt de la consommation. Alors, il y a plusieurs composants du blé qui sont à la source de l'allergie, notamment des protéines, dont le gluten, mais pas seulement. On pense aussi que les fructanes, qui peuvent générer des troubles digestifs bien connus depuis les années 60, sont aussi probablement en cause. Les fructanes, ce sont des sucres lents qui favorisent le développement de la flore intestinale. Ils ont donc un effet probiotique. Ils sont reconnus actuellement comme étant des probiotiques, mais ils provoquent évidemment des ballonnements digestifs. Et c'est ça qui va générer probablement des hypersensibilités. Il faut voir qu'il y a une étude en 2017 qui dit que ce sont, une étude qui est parue dans Gastroentérologie, qui dit que ce sont les fructanes qui vont former cette forte sensibilité digestive. On voit que tout ça, c'est pas très très clair encore.
Non, alors en 2011 aux États-Unis, le livre Wet Belly présente le blé comme un poison chronique, en affirmant que le gluten serait un poison ajouté par les industries de la farine.
Oui, alors le livre ajoute même naïvement que le gluten va contribuer à altérer la jonction entre les cellules de la muqueuse intestinale. Bon, ça c'est quand même assez naïf. De nombreuses études scientifiques évidemment ne peuvent pas corroborer cette suspicion. Alors, il est vrai que les quantités de gluten ont été largement augmentées dans les pains utilisés, notamment par la restauration rapide. Il faut voir qu'avant, on a eu du pain qui petit à petit a accumulé du gluten jusqu'au 19e siècle, et que depuis la fin de la guerre 39-45, on a introduit des composés, des peptides, hein, notamment des opioïdes comme la gliadorphine ou la glutéomorphine, qui peuvent s'avérer parfois toxiques pour l'organisme. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent participer à cette sensibilité, d'après de nombreuses publications scientifiques.
Les études scientifiques montrent que le gluten ne peut donc pas déclencher à lui seul une pathologie.
Oui, mais toutes ces études scientifiques ne sont pas forcément complètes. Dans tous les cas, les agro-industries ont largement profité des accusations qui sont portées sur le gluten en développant maintenant des régimes dits gluten-free qui vont atteindre maintenant plus de 60 millions de chiffres d'affaires rien qu'en France. Enfin, quoi qu'il en soit, les personnes qui souffrent d'une hypersensibilité, que ça soit dû à un effet nocebo ou à une irritation intestinale, elles existent. Il n'y a donc aucun consensus scientifique sur la sensibilité au gluten, mais manger sans gluten, ça n'entraîne pas de carence et ça n'a pas d'incidence sur la qualité nutritionnelle des aliments. En revanche, évidemment, sans gluten, on ne peut plus fabriquer du pain.
Ah, notre fameux pain. Revenons à la fabrication des farines et du pain. Et alors, le pain est arrivé quand dans nos civilisations? À quel moment?
Alors, des traces de pain sans levain ont été trouvées sur plusieurs sites datant de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Le pain préhistorique n'était fait qu'une sorte de bouillie crue, ou plus ou moins de grains sauvages écrasés, mouillés avec de l'eau, parfois plus ou moins cuits sur des pierres chaudes. Un jour, l'homme va donc décider de faire griller cette bouillie en galette, et ça va prendre une forme bombée. Et l'histoire du pain va donner le pain levé, qui est associé à l'histoire de la bière. Car le levain fut pendant longtemps la seule manière de faire lever le pain, mais c'était aussi une des rares manières de faire de la bière. On sait que les Égyptiens, et probablement avant eux les Sumériens, fabriquaient de la bière, et aussi du pain. Mais on va s'apercevoir petit à petit que de nombreux autres peuples, et notamment les peuples du néolithique en Europe du Sud, consommaient aussi de la bière et des céréales dès les débuts de l'agriculture.
On lit un peu partout que le pain serait originaire de l'Égypte ancienne, mais tu as trouvé d'autres sources?
Ah oui, en effet. C'est une histoire beaucoup plus complexe et passionnante. Alors évidemment, on dit partout que ce sont les Égyptiens qui ont inventé le pain vers 3000 avant Jésus-Christ. Mais c'est un pain qui n'est pas tellement levé, où le grain de blé est écrasé au mortier. La pâte repose quelques heures et fermente plus ou moins naturellement, mais sans produit fermentant, et elle cuit dans des moules qui sont probablement chauffés par le feu. Les anciens Égyptiens ont placé des provisions dans les tombes pour assurer aux morts sa subsistance dans l'au-delà. Et donc, dans certaines tombes, datées de 3006-3004, on a conservé ces restes de pain. En revanche, avant cette date, en Égypte, l'orge, l'avoine, le millet, le froment, le lotus étaient aussi utilisés pour faire des galettes plus ou moins plates, cuites sur des pierres plates. On appelle tout ça encore du pain, ces bouillies de farine qui sont préparées traditionnellement au Proche-Orient. Mais cette pâte non fermentée est faite en général de farine complète et d'eau et étalée et cuite. On se sert d'un fragment de feuille pour saisir la nourriture. Et il existait déjà des moulins à manège et des moulins horizontaux dans l'ancienne Mésopotamie jusqu'au Liban. Le pain au levain, lui, ne fait son apparition qu'au cours du premier millénaire avant notre ère, il y a à peu près 1000 ans. Mais en fait, on va voir que ça peut être beaucoup plus ancien.
Le pain pourrait alors avoir une origine plus ancienne, alors?
Oui, parce que même avant ces 3000 ans avant Jésus-Christ, bien que la première attestation de pâte levée date de 3600 ans, donc en Mésopotamie, l'invention du pain pourrait très bien provenir de tout un ensemble d'autres peuples méditerranéens. Car la culture du blé existe en Europe dès 7000 ans avant J.C. 4000 ans avant encore. On a quelques sites préhistoriques qui livrent des traces de petites épeautres, par exemple, à fond de Tobrouga dans le Var, le Baourou ou encore près d'Aix-en-Provence. Tout ça, ça date de 7000 ans avant Jésus-Christ, soit 2 à 4000 ans avant les pains d'Égypte et de Mésopotamie. On sait par exemple que bien avant l'arrivée des Romains en Provence, les habitants fabriquaient déjà du pain levé à partir de petites épeautres, c'est-à-dire à partir d'engrains. Tout ça probablement vers 5000 ans avant J.C. Les Gaulois vont découvrir ce pain 2000 ans avant J.C. et il est déjà bien présent chez les peuples autochtones. Il est donc possible que le pain soit issu d'une découverte locale ou qu'il provienne de l'installation des phocéens à Marseille. Mais chez les Grecs, les phocéens sont des Grecs, le pain quotidien qu'on appelle la matza, c'est une galette, généralement d'orge et non fermentée. Et il n'y a que le pain de fête, l'artos, qui est un pain de blé. Mais les deux sont cuits sur des pierres brûlantes. La fougasse, c'est un pain plat et peu levé, proviendrait de la focaccia, peut-être liée à la pâte à pizza fabriquée avant l'époque romaine en Italie. Donc en modelant toutes ces techniques venues de l'Antiquité, peut-être celles du sud de la France, en tout cas, c'est dans ce coin-là qu'a été produit le vrai premier pain levé au levain.
Du sud à cette région, hein. Elle est appréciée par Thierry. D'ailleurs, la farine existe dans le sud de la France depuis 5000 à 6000 ans, n'est-ce pas ?
Voilà. Et l'agriculture néolithique en Provence, elle est déjà très diversifiée il y a 4000 ans. La présence simultanée de blé tendre avec le petit épeautre, avec l'engrain, avec le grand épeautre, vont témoigner que les Provençaux jouent aussi sur plusieurs registres. Il est possible d'imaginer que l'engrain était cultivé dans les terres pauvres, alors que le blé tendre était réservé aux terres plus profondes. L'occupation romaine, ce qui va donner le nom de Provence, hein, la province romaine va devenir la Provence. Ça va bousculer l'engrain, ce qu'on appelle aussi le petit épeautre, qui va le reléguer dans des terrains non cultivés, dans des terrains sauvages et surtout peu romanisés. L'agriculture romaine va s'établir sur le froment et sur la vigne et l'olivier. Petit à petit, la farine sur meule des moulins à manège tirés par des ânes ou des bœufs va être remplacée par les premiers moulins à eau, puis il va falloir attendre environ 400 à 500 ans avant JC pour assister à l'apparition de ces premiers moulins. Après JC, 500 ans après JC, là on est en pleine dégradation de l'Empire romain, donc tu vas aller un peu vite, on va dire, alors c'est vrai que les peuplades normandiques vont envahir la Provence et elles vont provoquer l'exode des populations. On va donc perdre en partie les pains d'engrain pour revenir à d'autres pains, moins avec du blé non vêtu probablement, mais ces pains vont quand même servir parce qu'ils sont plus faciles à conserver et ça va permettre à ces populations de survivre à toutes ces grandes époques de mélanges sociaux.
Et ensuite, on perfectionne la sélection et les farines, n'est-ce pas ?
Alors lentement, on va utiliser des pains de plus en plus panifiables, mais encore anciens pour moudre des farines rustiques. Alors ce sont les premiers blés tardifs, blancs, roux, comme par exemple la cécette ou enfin la toselle. La toselle qui est un grain sans barbe qui donne une farine blanche dont on retrouve la trace des 1042 dans le Midi. En Provence, hein, le nom de toselle évoque ou toucelle, ou tout, ça porte plusieurs noms différents, ça évoque la présence romaine. La cécette, toujours en Provence, c'est un grain à barbe noire, qui est en blé, un blé poulard ancien. Puis on cultive aussi le blé rouge de Bordeaux. Alors lui, c'est le groupe Multiroom. Hein. C'est toujours des variétés anciennes hein, qui vont s'installer au Moyen-Âge. Alors c'est moins ancienne que l'engrain, mais ce sont des froments déjà très anciens. En fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il existe déjà au moins une trentaine de blés qui vont être cultivés. À cette époque où les famines vont rester nombreuses, les nouvelles techniques d'agriculture vont apparaître pour augmenter le rendement. On va inventer le collier d'attelage, la charrue à roue, le fléau à battre le grain et surtout le moulin à eau. En fait, c'est au début du 6e siècle que le premier moulin à vent apparaît. C'est un premier moulin à vent qui est attesté en France, date environ de 1180. Les tout premiers sont plutôt apparus en Grèce. Et ce principe de moulin à vent, donc, utilise le principe des navires à voile. Et très vite, ils vont appartenir au clergé ou au pouvoir du seigneur. Les paysans sont épuisés par les trajets obligatoires pour venir moudre dans le moulin qui appartient au chef, hein, au clergé ou au seigneur. Et puis ils vont cuire leur production au château du seigneur. Et là encore, il faut qu'ils payent des taxes et des retaxes. Il n'y a que le pétrissage qu'ils peuvent faire à leur domicile. On utilise le pain en général comme un tranchoir, c'est-à-dire que ça devient une sorte d'assiette sur lequel on pose les viandes et c'est comme ça qu'on peut consommer. Alors en cas de pénurie d'orge, d'avoine, les pauvres font fabriquer ce qu'on appelle les pains de famine, qui sont fabriqués avec de la paille, de l'argile, des racines, des herbes.
C'est une drôle de constitution, ça.
Oui, mais ça n'empêche que petit à petit se crée tout un ensemble de termes qui prouvent à quel point le pain est convivial, puisque c'est du pain que vient le terme copain, du haut Moyen-Âge, ou alors compagnon, qui désigne ceux avec qui on mange le même pain, à qui on partage le pain. Et depuis la nuit des temps, on distribue également gratuitement ce qu'on nomme le pain raté.
C'est quoi le pain raté ? Du pain mal cuit ou mal formé ?
Alors pas du tout. Le pain raté, c'est pas un échec dans la panification. Le pain raté n'a rien d'un pain gâché. C'est le même pain que les autres. Il s'agit juste d'une action extérieure. Et c'est cette action extérieure qui va donner le sens actuel du mot raté. Puisque le pain raté, c'est simplement du pain abîmé par les rats. Et donc on va le distribuer gratuitement parce qu'il était impropre à la vente, le pain raté.
D'où le sens actuel du qualificatif raté. En revanche, après ce Moyen-Âge, la Révolution française va inaugurer le pain français et la fameuse baguette.
Presque. Hein, en 1792, la Convention n'autorise que le pain égalité, qui est un pain grossier, mais qui est à la fois pour les riches et pour les pauvres. Et puis, pendant la Révolution et après la Révolution, au nom de ces égalités, on va réinventer le pain de froment, le pain blanc. Alors là, il va falloir évidemment que ce pain blanc devienne le pain de tout le monde. On va donc abandonner l'amidonnier, l'engrain, le grand épeautre, pour garder que le froment. Et à la première boulangerie industrielle, on va l'avoir créée vers 1836 en France. C'est pendant la même décennie qu'on fait apparaître la baguette, mais toujours avec du pain blanc, avec une sélection des souches, une amélioration des techniques de fabrication, et ça va entraîner que la qualité nutritive du pain va beaucoup, beaucoup diminuer au fur et à mesure de cette évolution.
C'était « When the sun set down south » par les Noble Seals Swing Sisters.
Ah, c'est pas facile à prononcer tout
non.
ça.
Non. Donc, en fait, finalement, tout fut bon pour blanchir le pain. Hein. C'est un désastre nutritionnel que tu nous annonces. Alors, nous voilà à nouveau à comprendre ce qui est advenu des blés et du pain. Thierry, nous allons continuer à parler du pain levé, le pain inventé il y a 7000 ans par une civilisation méditerranéenne qui a considérablement changé aujourd'hui.
Raconte-nous. Et oui, parce que le pain naît de la farine, Siona. La diversité génétique des différents blés anciens a lentement augmenté après la préhistoire. Mais après, elle a considérablement régressé, à la suite des sélections artificielles réalisées par les semenciers, et notamment au XIXe et au XXe siècle. Cette évolution a accompagné l'industrialisation de l'agriculture en modifiant de manière très significative les caractéristiques et la diversité génétique des blés. La sélection moderne, commencée à la fin du 19e siècle, notamment par Henri de Villemorin, s'est concentrée sur trois critères: la résistance aux maladies et aux aléas climatiques, la richesse en protéines, et notamment l'importance de gluten pour la panification, et le troisième critère, c'est bien sûr le rendement. Et cette sélection a eu comme contre-coup la quasi-disparition de la diversité génétique des blés barbus.
Marie Astier, dans un livre passionnant, publié aux éditions du Seuil en 2016, demande « Quel pain voulons-nous ? » C'est la question fondamentale, en effet. Que contient le pain du point de vue nutritionnel actuellement ?
Alors, le pain contient 8 à 9% de protéines végétales, comme le gluten, par exemple, qui contribue à sa fabrication, puisque le gluten, on l'a vu, va favoriser la levée de la pâte. Des glucides complexes représentent la principale source d'énergie nécessaire et au métabolisme et au fonctionnement du cerveau et du système nerveux sont présents dans le pain. Ils sont plus longs à assimiler que les glucides simples, ce qui provoque un sentiment de satiété et ça évite de grignoter normalement entre les repas. Donc le pain est un glucide complexe. La teneur en sel du pain est en moyenne de 650 mg de sodium pour 100 g, soit 5 g de sel dans une seule baguette. Alors c'est quand même une quantité maximale quotidienne recommandée, il y a donc quand même beaucoup trop de sel. Le taux de fibres est variable, de 4 à 9 g pour 100 g. Les fibres insolubles contenues dans le pain permettent de réguler le transit intestinal. Plus les céréales utilisées dans la fabrication du pain sont complètes, plus le taux de fibres est important. Ainsi, un pain complet contient 7,5 g de fibres, alors qu'un pain blanc en contient en général 2,6 g pour 100 g. Le pain ne contient pas de lipides, enfin de 1 à 1,8%, sauf les pains transformés, comme les pains suédois, les pains viennois, les pains de mie. Là, ce sont des graisses insaturées qui vont être présentes dans ces pains, c'est donc pas du tout nécessaire. Enfin, le pain apporte des vitamines du groupe B, ainsi que de la vitamine E, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux. Le pain complet contient 2 à 3 fois plus de vitamines du groupe B et plus de vitamines du groupe E que le pain blanc.
Le pain blanc est donc beaucoup plus pauvre, mais il existe beaucoup de farines différentes. Comment les reconnaître, hein?
Alors oui, avec le pain blanc, on nous roule dans la farine. Outre les farines complètes de grains anciens, comme la farine d'engrain, de grand épeautre, des blés, des amidoniers très anciens, et puis aussi les farines de froment comme la tozelle ou le camut, il existe différents types de farines pour les blés hexaploïdes. Tout ça, ça contient plus ou moins de fibres et plus ou moins d'intérêt. Plus une farine est complète, plus il faut du temps de levage. Et donc le pain ne va pas apparaître aussi clair, il est généralement plus brun, beaucoup moins levé que le pain blanc. Mais le goût et la digestibilité du pain augmentent considérablement. En gros, T45, c'est de la farine blanche qui est utilisée pour la pâtisserie. T55, c'est de la farine utilisée pour du pain blanc ou du pain courant, la pâte de très bonne qualité. T65, c'est de la farine qui sert à faire du pain de campagne ou tout autre pain dit de tradition. T80, c'est déjà de la farine presque semi-complète, on l'appelle de la farine bise. Elle est assez utilisée dans les boulangeries biologiques. Elle sert à faire le pain semi-complet, comme la T110, qui est également un pain semi-complet, qui garde un goût assez doux. La T130, qui est assez rare, mais qu'on trouve de temps en temps. Et la T150, qui est dite farine intégrale, pour faire du pain intégral, du pain complet intégral. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Eh bien, quand on dit T55, ça veut dire que pour 100 g de farine, il y aura 0,55 g de minéraux. Or, ce sont ces minéraux qui sont intéressants. Donc, un T150, il y a 3 fois plus de minéraux que dans un T55, car ils contiennent tous les micronutriments essentiels à notre nutrition.
Mais je croyais que c'était le levain qui rendait le pain digestif, hein, plus digestif. Alors, pourquoi le pain blanc est-il moins digeste que le pain semi-complet ou complet ?
Alors, on peut pas être au four et au moulin, dit le proverbe. Le pain blanc, il est fermenté beaucoup trop brièvement, parce que c'est un avantage pour le boulanger. Il va fermenter beaucoup plus rapidement, avec y compris de la levure et non pas du levain.
Plus vite fait.
Et donc, ça va être beaucoup plus vite fait. Mmh. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important que ça fermente lentement, car c'est le levain qui favorise la meilleure assimilation des acides aminés, des vitamines, des minéraux, et qui rend le pain plus digeste. Plus la levée va être lente, évidemment, plus le pain va aussi se dessécher et s'abîmer. Donc, c'est plus difficile de le faire cuire. En fait, les céréales et les légumineuses contiennent toutes naturellement de l'acide phytique. Cet acide phytique, il est principalement situé dans leur enveloppe, dans le péricarpe. Cet acide va s'associer à des minéraux qui sont présents dans l'intestin pour former des phytates. Ces phytates sont insolubles et ils bloquent l'assimilation des minéraux dans notre organisme. On parle de déminéralisation. Donc cet acide phytique peut diminuer la biodisponibilité des minéraux et entraîner chez nous des déficits en calcium, en fer et en zinc. Mais la phytase est une enzyme activée par le levain. Et c'est cette phytase qui va détruire l'acide phytique. Plus le taux d'une farine est élevé, plus sa teneur en acide phytique est importante. Donc, plus le pain est complet, plus il faut du levain. Au contraire, oui. Plus la pâte fermente, plus la phytase va diminuer les taux d'acide phytique.
Je comprends mieux le temps que tu passes à nourrir ton levain.
En outre, le levain va constituer un début de fermentation alcoolique et ça va encore faciliter la digestion. Donc, pour résumer, le pain au levain possède moins de sucre fermentissible et il est beaucoup plus facile à digérer que le pain blanc et il contient beaucoup plus de valeurs nutritives. Un pain au levain est donc, d'un point de vue nutritionnel, plus intéressant qu'un pain réalisé uniquement avec de la levure boulangère.
Le pain blanc est un pain à base de farine de blé dans laquelle ont été retirés le son et les germes, ce qui lui donne cette couleur bien blanche, ainsi qu'une date de durabilité minimale plus longue.
Oui, après les années de guerre et le pain noir qui était fabriqué avec des farines de très mauvaise qualité, le pain blanc est apparu comme le pain des riches, comme un pain riche.
Eh oui, tout propre, tout.
Mais c'était un grain de folie. Dans les années 50, le pétrissage intensifié, associé à l'emploi d'additifs, notamment de la farine de fève, a permis d'obtenir un pain blanc quasi immaculé. On l'a associé même à des décolorants comme le bromate de potassium, l'azote dicarbonamide ou encore le dioxyde de chlore. Le pain industriel va petit à petit s'imposer. Et comme on va surgeler la pâte, ça va transformer les boulangeries petit à petit en des terminaux de cuisson. À la fin des années 80, les boulangers vont enfin réagir. Ils imaginent alors une fermentation directe qui va incorporer la levure dans la pâte au moment de pétrir, mais toujours sans levain ni pâte fermentée. Elle préserve le goût de la farine et permet des pains longs, comme par exemple la baguette, le bâtard ou encore la ficelle. Mais ce pain devient une calamité nutritionnelle. Les boulangers découvrent aujourd'hui les vertus du four à bois, du levain naturel et de la pâte peu pétrie, mais beaucoup plus longuement fermentée.
Pourquoi finalement le levain blanc s'avère une calamité du point de vue nutritionnel ?
Alors, le pain blanc, il est moins acide. Mais son élaboration va demander d'autres technologies. La cuisson est différente. La réaction chimique est une réaction dite de Maillard, qui provoque la cuisson, ça agit sur les protéines et ça les fait brunir. C'est avec la réaction de Maillard que les acrylamides cancérigènes vont se former. Plus on ajoute du sucre en plus grande quantité, plus de sel, des levures chimiques dans les années 60, alors tout ça évidemment, ça va fabriquer un pain particulier. Mais pourquoi ajouter du gluten dans les farines qui en ont déjà beaucoup ? Même quand le pain est blanc, il n'est pas sucré. Il est fabriqué à partir de farine blanche avec un acide glycémique très élevé. Ça veut dire qu'il provoque une hausse très rapide et très brutale du taux de sucre dans le sang. Ça s'appelle un pic de glycémie. Et c'est ce pic de glycémie qui va produire un stockage des sucres et des graisses par les cellules et qui va perturber notre foie. Ça fait donc grossir et en plus ça perturbe le foie. Les sucres sont éliminés très rapidement par l'organisme. Du coup, on va avoir faim et donc pour avoir cette glycémie plus basse, on va baisser d'énergie. Et donc, on a à nouveau envie de sucre. Ça entraîne une sorte de cycle infernal. Voilà pour laquelle le pain blanc fait grossir. Même si le pain complet est tout aussi calorique, il a l'avantage d'avoir un indice glycémique beaucoup plus faible et donc lui va faire beaucoup moins grossir.
Alors que tout était bon pour blanchir le pain dans les années 60 et 80, on voit revenir finalement des pains industriels, mais présentant mieux pour le consommateur, couleur, forme et complétés par des graines ou des fruits.
Alors oui, tous ces pains aux graines, c'est toujours du pain qui est beaucoup trop pétri et pas assez fermenté. Ce sont des pains souvent emplis d'auxiliaires ou d'additifs de panification. On met de l'acide ascorbique qui permet de surpétrir. Car plus on pétrit, plus on ensemence en levure, hein, évidemment. Donc plus évidemment, on va pouvoir faire monter le pain artificiellement, mais on élève l'index glycémique du pain. On peut rajouter du sulfate d'alumine dans les pains blancs pour les faire plus blanchir. C'est ce qu'on met dans les dentifrices hein, ou dans les laits et les crèmes solaires, par exemple. Dans les plats préparés aussi, d'ailleurs. Et puis dans les viennoiseries, bien sûr, on ajoute énormément de choses. Des études récentes montrent que l'aluminium, absorbé en très grosse quantité tout au long de la vie, peut provoquer des lésions neurologiques et musculaires, car l'aluminium va s'accumuler dans l'organisme et on pense qu'il a un rôle dans des maladies neurodégénérescentes, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
Ah, effectivement. Mais il existe une loi qui garantit la qualité du pain.
Oui, mais il a fallu attendre 1993 pour le décret qui crée le pain dit de tradition française. Alors la qualité du pain va enfin changer. Les boulangers vont diminuer l'intensité du pétrissage et faire de plus longues fermentations. Si vous préférez, entre 1950 et 1993, on mangeait le pire. Depuis 1993, on mange un peu moins pire. Les fermentations sont un petit peu plus longues, le goût du pain est moins salé et ça va s'améliorer. Enfin, on est quand même très loin d'avoir récupéré la valeur nutritionnelle d'un vrai pain d'autrefois fait à la main. Il faudrait cesser la course aux farines blanches et accepter de travailler avec des blés anciens qui ont certes une valeur boulangère plus rustique, mais qui possèdent des taux de gluten beaucoup plus raisonnables, généralement inférieurs à 7%. Alors, évidemment, ils sont plus difficiles à travailler. Il faut rappeler l'intérêt des farines complètes ou semi-complètes. Parce que c'est dans le son et dans le germe de blé que se retrouvent les trois quarts des micronutriments, protéines, fibres, minéraux, vitamines. Beaucoup de gens se tournent vers un pain fait maison, mais il faut acquérir de l'expérience avec des blés anciens. Fait maison, ça suffit pas. Heureusement, le mouvement des paysans boulangers recouvre aujourd'hui des vrais passionnés qui savent utiliser des blés anciens et des pratiques agricoles et boulangères vraiment traditionnelles. En plus, ils gardent les semences gratuites. Les paysans boulangers font le pain depuis le grain jusqu'au levain et possèdent un véritable tour d'humain de professionnels.
Eh oui, tout à fait, c'est fantastique. Mais pourtant, avec plus de 10 milliards de baguettes dévorées par an, les Français raffolent du pain blanc. Le pain blanc est présent chez 95% de ménages français.
Oui, et il faut voir que ce pain moderne, improprement nommé pain de tradition, est réalisé avec des farines de type T65.
T55
même parfois.
Aussi.
Des teneurs en gluten très fortes et ça contient que des calories vides. C'est comme si on avalait des morceaux de sucre en quelque sorte. 85% de cet amidon, c'est des sucres simples comme le glucose assemblé en très longue chaîne. Même si le pain blanc n'a pas un goût sucré d'entrée de jeu, il est fait à 85% de glucides. Il montre un index glycémique très élevé. Alors l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie du corps. Le pain blanc est donc un aliment calorique, saturé en sel et en sucre rapide.
Que des désavantages.
Ben voilà, il est pauvre en fibres, en vitamines, en éléments minéraux. Ce pain blanc ne devrait pas avoir sa place dans le patrimoine gastronomique et encore moins être nommé traditionnel. Parce qu'en fait, il est traditionnel depuis les années 50. Hein. Il a perdu toutes ses anciennes qualités et évidemment, on n'a plus du tout la même tradition. Et il faut savoir qu'en plus, dans ces pains-là, on ajoute des additifs.
Quels sont ces additifs dans ce pain ?
Alors, il y a 5 adjuvants naturels. La farine de fèves, la farine de soja, la farine de malt, le gluten et la levure désactivée. Ainsi qu'un groupe technologique, l'amylase fongique. Ça, c'est pour du pain traditionnel. Mais on ajoute aussi des additifs comme le E300, le E254. Le pain autorise 14 additifs. Et on adjoint en plus des auxiliaires technologiques comme l'amylase, qui sont censés dégrader à la cuisson. Et donc, ils sont pas présents sur l'étiquette,
ouais, mais
puisqu'ils sont censés ne plus être là, alors qu'il en reste des traces. Mmh. En outre, ces pains sont chers au kilo, et le pire, c'est que sont encore ces petits pains qui sont enrichis en graisse et en sucre, et les pains de mie à l'anglo-saxonne. Alors ça, c'est le pire que tout, puisqu'ils ont droit à 20 additifs en plus des 14. Alors on le voit évidemment, ces additifs vont améliorer la vie des industriels, mais pas la vie des consommateurs.
On vous apporte un petit rien, une goutte d'eau, une petite larme dans votre infernal quotidien. Vous nassez, wap, peuple roumain. Voyez, sur nous, il n'y a pas d'armes, juste les fringues et une main tendue vers vous avec nos âmes. Avec nous dans les camions, nous les gadjons, les petits bretons, on va traverser les pays pour aller voir tous nos amis. Viens avec nous et tu verras pourquoi ici on ne parle pas de la misère en Roumanie. L'Europe est une belle patrie. Pour refaire la place du marché, de quoi nourrir 10 000 familles.
C'est pour montrer à la télé.
Regarde à côté, eux, ils ont quoi? Des planches, des murs, parfois un toit. Que d'anciennes gosses,
chien, chat.
Et pas une seule lettre de l'État. Chez moi c'est chez toi, fais pas attention à ces cons là. Et resserre-moi de la suica pour toute la nuit.
Taper des lois,
le cœur en joie, on est reparti. La tête remplie de 1000 trésors. Ici l'argent est banni, c'est les sourires qui valent de l'or. Tchara, peuple tzigane, vous nous donnez beaucoup de bien. Une goutte d'eau, une petite larme
dans notre infernal quotidien.
Benaziwa, peuple roumain, voyez sur vous, il n'y a pas d'armes, juste l'espoir d'un lendemain, sans guerre, sans tyran et sans drame.
Le groupe Tisson nous chantait « Lacho Chara ». Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste et dans Science en Liberté, une émission pour une science critique qui vient nourrir toutes vos petites cellules grises. Nous sommes donc dans la dernière partie, les guerres du pain, les révoltes frumentaires, les grains de la colère. Bienvenue à vous, auditrices, auditeurs qui nous rejoignez. Nous continuons avec Thierry Laudet d'évoquer l'histoire des blés et du pain. Dans cette cinquième partie, nous allons parler des grains de la colère, car le proverbe le dit « Peuple sans blé, peuple mal assemblé ». Le pain faisait donc partie, très important, n'est-ce pas Thierry ?
Le pain, en effet, faisait partie de la communauté. Les compagnons sont ceux qui partagent le pain. C'est pourquoi les petits chefs ont toujours voulu s'emparer des moulins. Les seigneurs et les abbayes ont souvent cherché à contrôler les moulins qui étaient des sources de richesse.
Et le pain pouvait aussi provoquer des troubles alimentaires, apparemment.
Oui, s'il y en a, le pain a connu le fameux mal des ardents, et on l'évoque juste très vite, une maladie grave provoquée par un champignon qui était mélangé à la farine, puisqu'il pousse sur le blé, c'est l'ergot de seigle, ou il pousse sur le seigle. Donc en 944, on l'appelait le feu Saint-Antoine, il a tué plus de 40 000 personnes qui avaient consommé du pain ergoté, parce que l'ergot de seigle s'était mêlé à la farine. Alors tout le Moyen-Âge a redouté les angoissantes perturbations et les gangrènes, parce que ça faisait tomber les doigts, le nez, etc., que provoquait ce petit claviceps purpurea, sans en comprendre les causes. Mais c'est surtout parmi les menaces qui pèsent sur les populations rurales et urbaines, il y a bien sûr la faim. Quand les récoltes sont mauvaises, le pouvoir royal va intervenir, mais les disettes du pain sont très courantes jusqu'au XIXe siècle. De là des multitudes d'émeutes qu'on appelle les troubles frumentaires, agitation contre le coût du froment, du pain et l'accaparement des grains.
Oui, ça nous évoque certains débats actuels. Effectivement, c'est important. Alors, parmi les colères du manque du pain, il y a la bataille des Va-nu-pieds en Normandie.
Oui, de juillet à novembre 1639, la révolte des Va-nu-pieds éclate. Ce sont des paysans pauvres ou des jeunes citadins qui vont organiser une armée de révoltés qui va atteindre plus de 4000 hommes, qu'on va appeler les armées de souffrance, et ils vont exercer des raids audacieux, notamment contre le fisc et contre les accapareurs. On va avoir également dans le Quercy, en 1707, des révoltes qui vont exploser. À chaque fois, la répression est terrible, et en règle générale, on donne un petit peu de pain aux gens pour les calmer.
Et ces troupes se reproduisent encore et encore. Le pain constitue l'aliment de base des pauvres, et le manque de pain rend les paysans lucides sur l'organisation marchande et sur le vieux monde, n'est-ce pas ?
Oui, alors la lucidité des révoltés prend toutes sortes de tournures contre l'État, et surtout contre la noblesse et ses privilèges. Pendant l'hiver rigoureux de 1739-1740, le pain est devenu si cher dans Paris que les désordres vont commencer à se multiplier. Alors on se rappelle bien sûr de cet épisode particulier du carrosse du cardinal de Fleury qui est entouré, je cite le texte, par 200 femmes qui l'interpellent en saisissant les brides des chevaux et qui vont jusqu'à ouvrir la portière en criant « du pain, nous mourons de faim ». Ça nous rappelle tout un ensemble de révoltes modernes contre les taxes. C'est entre 1713 et 1740 que l'évolution des révoltes va entraîner un nouveau changement de cible où petit à petit on va contester l'organisation de l'État et la tyrannie des rois. Et en fait ça commence beaucoup plus tôt que la Révolution française, et ça va aller en s'accentuant, en aggravant les rapports sociaux entre les marchands et les classes populaires. Je voudrais ajouter un petit quelque chose, c'est que souvent dans les livres d'histoire, on nous dit qu'à l'époque, au début de la Révolution française, on ne cherchait pas à lutter contre le roi. Mais en fait, dans les textes, on voit très bien que dès 1740, la tyrannie des rois est déjà véritablement rappelée à l'œuvre.
Eh oui. Et on a aussi parlé de la guerre des farines.
Alors la guerre des farines, c'est une vague de révolte particulière qui s'est passée entre avril et juin 1775 un peu partout dans le nord, l'est et l'ouest de la France. C'est encore une réaction à la hausse des prix du blé et du pain. Alors cette révolte connaît de nombreuses émeutes et évidemment elle a été écrasée par l'intervention de la troupe, démontrant toujours que les militaires sont toujours là contre le peuple plus que contre les ennemis extérieurs. Des condamnations à mort pour l'exemple, et plus de 25 000 soldats ont été mobilisés contre les révoltes. Ces révoltes frumentaires doivent se lire comme une forte crise sociale. Alors ce sont des événements qui vont intervenir contre Turgot à la base, puisque c'est Turgot qui, en 1774, va commencer à libéraliser le commerce. Dans son idée à lui, ça allait permettre de faire baisser les prix. Mais cette politique libérale, qui a vocation à enrichir les marchands et les propriétaires de capitaux, de faire tourner l'économie, comme diraient certains, eh bien, c'est déjà, en fait, quelque chose qui va aggraver la faim en France. Et c'est contre ce libéralisme des marchés que la révolte va éclater. Donc c'est une révolte antilibéraliste, mais qui va très vite prendre des tournures anticapitalistes. On peut voir ces révoltes de la faim comme un prélude à la Révolution française, puisque ces guerres de farine vont constituer un événement pré-révolutionnaire qui va contester le pouvoir.
Pourquoi ces émeutes de pins peuvent-elles être considérées comme des situations pré-révolutionnaires ?
Eh bien, l'édit sur la liberté du commerce que va faire Turgot pour libérer le commerce des grains va entraîner plus de 120 émeutes. Turgot, fidèle au libéralisme, estime que cette libéralisation va entraîner une hausse de la production et donc une baisse des prix. Et pendant 5 mois, en fait, on va assister à des spéculations. Et évidemment, ce libéralisme et ses spéculateurs vont petit à petit être eux-mêmes contestés. À Beauvais, les pavés pleuvent. À Pontoise, à Argenteuil, il y a des pillages. À Saint-Germain-en-Laye, à Senlis, le marché est mis à sac. À Paris, les émeutiers vont voler les sacs de grains, vont piller les boulangeries. On voit, les révoltés vont partout se révolter contre les rapports marchands en les accusant d'abord d'être inégalitaires et protégés par les forces de répression. Petit à petit, ils vont comprendre que le rapport marchand, ben, c'est évidemment le contraire même de ce qui est possible. On assiste à une volonté, à une aspiration de justice redistributive, mais ces insurrections vont donc être un vrai mouvement qui part à la base d'une contestation des taxes et du libéralisme et qui vont petit à petit proposer un monde sans les rapports marchands, un monde où les échanges seraient libres et gratuits entre les paysans. Le monde paysan entrevoit encore difficilement la fin de la propriété privée, hein, mais ils assument un devenir vers des coopératives qui sont confusément libertaires, inaugurant déjà des communautés populaires. Alors la répression va évidemment être très 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 sévère, comme dès que des gens se rencontrent et se mettent ensemble et commencent à parler, hein, tout de suite on a évidemment ça, mais comme dans la révolte, il y a aussi des jeunes gens lettrés, ils vont être les pourvoyeurs des idées nouvelles de liberté politique, d'égalité des droits, et donc la révolte frumentaire va devenir une véritable question sociale. On s'approche petit à petit de la Révolution française.
En fait, dans ces guerres de farine, comme toujours, les gouvernements utilisent tous les moyens à leur disposition pour faire cesser le mouvement et favoriser les marchands.
En effet, le gouvernement de Louis VII va faire intervenir immédiatement l'armée, donc il y a plus de 25 000 soldats. Donc il va y avoir une répression énorme sous la forme d'arrestations. Il y a même eu des pendaisons, hein. On a un perruquier de 28 ans, par exemple, et un compagnon qui a 16 ans, qui vont être exécutés pour l'exemple. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils n'ont rien fait, mais on les prend et hop, on les pend parce qu'ils ont fait partie des révoltés. Il va y avoir une maîtrise politique des prix, donc l'État va s'emparer des prix pour fixer le marché. Une assistance aux populations, entre guillemets, hein, on parle toujours de l'assistanat, c'est ce que vont faire les princes de l'époque en approvisionnant les provinces et en vendant les stocks de farine à des prix particuliers. Et puis bien sûr, dans les prêches dominicaux des curés de toutes les paroisses, on va avoir des messages du roi, hein, on connaît ça, un message « Abat la violence, soyez calme », etc. En fait, il y aura 5 mois de mouvements sociaux importants. Et au bout de ces 5 mois de mouvements sociaux, le calme va revenir, mais quand même assez temporairement.
Il y a pourtant bien des raisons à toutes ces révoltes quand même. De nombreuses révoltes, finalement, se sont déroulées et elles ont donné des lueurs de perspectives révolutionnaires.
Oui, parce qu'il faut savoir que c'est à partir de ces révoltes sur les taxes et sur le pain que les premières idées révolutionnaires vont pouvoir apparaître contre le rapport marchand, qui est un rapport inégalitaire, un rapport évidemment scandaleux d'exploitation, et qui va petit à petit donner le capitalisme du 19e siècle. Les travaux des historiens ont établi que 8528 révoltes vont se politiser de plus en plus. Elles sont apparues entre 1780 et plus de 300 insurrections pré-révolutionnaires entre janvier et avril 1789.
Ah oui, quand même. Hein.
Alors, il y a d'autres colères du pain qui se sont manifestées aussi en 1816, toujours en prélude à des grands mouvements révolutionnaires contre le marchandage.
Alors Thierry, dis-nous donc quelques recettes de pain.
Alors oui, pour quitter toutes ces révoltes, on va parler un peu de la manière de fabriquer soi-même avec ses petites mains du pain. Alors du pain complet, du pain comme vous voulez. En gros, il faut essayer d'arriver à avoir à peu près 60% d'eau, jusqu'à 70% d'eau dans le pain. Et donc il faut mélanger environ 180 g d'eau pour 250 g de farine. On rajoute à ça du levain. Du levain fabriqué.
Oui, et qu'on nourrit bien.
Voilà,
hein.
Et qu'on nourrit. Alors, le levain fabriqué, c'est assez simple. Il faut partir de farine de seigle le plus souvent, avec un peu de farine de blé, dans lequel on met une proportion de farine, mettons 50 g de farine avec 50 g d'eau. On peut rajouter dedans des petits morceaux de pommes et un petit peu de miel au départ pour que le levain prenne. Et puis, on le laisse en quelque sorte pourrir à bonne température, 20-25 degrés. Petit à petit, ce levain va se lever. On va rajouter à chaque fois 50 g de farine, 50 g d'eau, 60 g de farine, 60 g d'eau, ça n'a pas d'importance, mais toujours ces quantités-là. Et puis ce levain, toujours à même température, va gonfler. Donc on en jette un peu, on en regarde. Et puis, avec ce levain, eh bien, on met environ 100 g de levain pour un peu moins de 90 g de levain plutôt pour un pain de 250 g. Alors on revient à notre recette. Si on prend 250 g de farine de pain complet pour 160 à 180 grammes d'eau, et on va laisser reposer pendant minimum 3 à 4 heures, hein, c'est vraiment un temps minimum. Une fois que ces 3 ou 4 heures-là vont être passées, on va faire l'abaissement de la pâte, parce que la pâte va doubler à peu près. On abaisse la pâte, c'est-à-dire qu'on réappuie dessus pour enlever en partie l'air et pour remélanger tout ça. Et là, on laisse reposer encore une heure ou deux. Puis, on va avoir le pain qu'on va pouvoir former. Donc, on va former ce qu'on appelle le pâton. Et donc, on va à partir de là grigner la pâte, c'est-à-dire faire des trous sur le pâton, de manière à ce que le gaz carbonique puisse s'échapper. On humidifie avec un pinceau la pâte sur l'eau, et là on le fait chauffer dans un four qui a au moins chauffé à 240 degrés. Donc, mais le pain bien fabriqué, c'est quand même le pain des paysans boulangers qui ont vraiment un tour de main, qui savent fabriquer la farine, qui savent la mélanger, qui savent l'extraire, etc. Garder la farine de très bonne qualité, qui savent bien grigner, qui savent bien pétrir, etc. Qui savent bien laisser le pain lever, reposer. Et donc toutes ces techniques-là, on peut les apprendre chez eux, évidemment, d'une manière tout à fait colossale. Et le pain qu'on va acheter chez un paysan boulanger n'a vraiment rien à voir avec du pain fabriqué industriellement.
Voilà. Et puis après, les odeurs, la chaleur, le doré. En plus, près de nous, en Tunisie, en 1983-84, contre la dictature de Habib Bourguiba, Ce sont des émeutes du pain qui ont tout commencé finalement.
On peut dire comme ça en effet. À chaque fois, on a une révolte de pauvres qui vont critiquer des taxes ou qui vont critiquer le manque de pain. Ça va inaugurer les révolutions. Là, c'est la révolution tunisienne, sans avant-garde rouge, ni pseudo-élite révolutionnaire trotskiste ou ce qu'on veut. Là, on a par contre des émeutes spontanées. Alors, ça va faire jusqu'à 150 morts. Évidemment, c'est pas les émeutiers qui tuent, c'est beaucoup plus la police qui leur rentre dedans. Mais tout ça, c'est le prélude à la révolution d'émancipation pour sortir enfin de la dictature. Notons qu'en France, un ministère de l'Intérieur, à l'époque, Michel Alliot-Marie, vantant le savoir-faire de la police française, propose de venir en aide au dictateur Bourguiba en lui envoyant des escadrons de gendarmes français pour lutter contre cette fameuse révolte qui pourtant va bien donner cette révolution que maintenant on flatte en disant qu'elle a été émancipatrice. C'est beaucoup plus qu'une erreur, c'est une trahison de l'esprit des Lumières par un ministre qui se disait républicain, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut méditer.
El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña, cuando el caballo relinche, entra el moro en España. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela, centinela del serrallo, alerta, alerta que vienen los moritos a caballo. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán.
C'était Nuestro Movimiento.
L'anarchie est une invitation au libre consentement des relations sociales. Aussi faut-il y inclure, à mon avis, les critiques de notions de valeurs économiques et de rapports marchands. Et la valeur des blés a provoqué bien des révoltes intelligentes, car la fin des illusions sur sa condition conduit l'individu à refuser une condition qui a besoin d'illusions, comme disait Karl Marx. Durant les années qui ont précédé 1789, nombre de révoltes populaires se sont déroulées contre les tromperies du pain. Chacune de ces révoltes a exprimé des raisons supplémentaires contre l'État et le pouvoir. Et la répression a toujours été terrible. Avec l'industrie moderne, le pain pourrait disparaître, remplacé par des faux pains, utilisant des farines transformées, des levures chimiques, des additifs. Qu'on se souvienne pourtant que les faux blés et les faux pains, s'ils ne déclenchent pas encore des révoltes, ne sont pas acceptés tels quels. Ils suscitent une résistance discrète, une résistance de chaque jour. Car ne rien dire, ne pas protester, ça ne constitue pas une adhésion du peuple. Les blés ont une histoire évolutive qui date des grands dinosaures. Avec la découverte du feu, le pain a pu être levé. Mais d'autres forces peuvent encore se lever contre les dinosaures modernes et même redécouvrir le feu. D'autres forces pourraient bien se révolter contre ce monde marchand factice et le pain n'en serait que meilleur.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission Science Libre à gmx.fr, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique, à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur HK et les déserteurs, demain.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain tu trouveras l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain, demain sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain puis qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. J'arrête, c'est promis.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, c'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain, demain sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain puis qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
J'arrête de s'éteindre.